La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et bonjour, ça fait des bisous dans le studio.
Alors salut.
C'est la midinale du 13 janvier.
Et à toutes.
C'est la 5.13,
je crois, mais on, visiblement, on ne met même plus les numéros.
Il ouais, n'y a plus rien qui va là-dedans. C'est Steph. Je suis avec Erwan.
Erin.
Avec Erin. C'est compliqué, tous ces pseudos.
C'est pas grave, Erwan.
Avec Pierre et avec Thibaut.
Putain, moi, c'est Dubois.
Ah, merde, avec Dubois. Thibaut, c'est bien, Thibaut? C'est parfait. Qu'est-ce qu'on vous raconte dans cette première partie? On rappelle alors, Erin nous a signalé tout à l'heure qu'on n'avait même pas expliqué ce que c'était la chronologie de l'émission. Donc logiquement, il y a trois parties dans cette émission.
Voilà, la délation.
Une première partie, ouais, tu sais bien avec moi, c'est comme ça. Une première partie de revue de presse, une deuxième partie qui serait s'informer autrement, où on présente ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, ce qui nous a énervé. Et puis, une dernière partie tout et pas rien qui se résume quand même globalement à une partie agenda. Et du coup, on est dans la première partie revue de presse. Et dans cette première partie, on avait envie de vous parler de la sortie du numéro 3 du fanzine Aou. Alors, c'est un fanzine qui existe. C'est quoi la publication? On sait pas trop. C'est variable. C'est pas assez...
Irrégulier?
Ouais. Ouais, c'est, donc c'est un irrégulier et c'est... Le sous-titre de Aou, c'est le journal des gilets jaunes qui ont du chien. Donc celui-là date de janvier 2020, il est à prix libre et vous pouvez le trouver à Brest, vous pouvez le trouver chez le bouquiniste de la place Guérin et à la petite librairie. Et sans doute dans d'autres endroits, mais on vous dira plus si on savait plus. Et du coup, je vais vous lire l'édito de ce numéro 3. Ça s'appelle « Tentative d'édito au sommaire, on sait plus très bien ». Salut les aminches. Nous espérons que ce numéro ne sera pas trop minable. En effet, pris corps et âme dans les luttes harassantes, nous avons bien moins de temps à consacrer aux belles lettres. Mais il valait mieux agir qu'écrire sur l'action, vous en conviendrez. Car en effet, cette rentrée ne fut pas de tout repos. D'abord le contre-G7 des parlementaires à Brest. Ensuite, la marche mondiale pour le climat du 21 septembre. Plus de 1000 personnes à Brest. Certains d'entre nous sont allés manifester ce jour-là à Paris. Et y ont rencontré la brutalité policière et sa version à moto, encore plus barbare, frappant directement à la tête, à coups de tonfa. Ah, où ça fait mal. La brave et cette journée parisienne ont inspiré de jeunes et tumultueux poètes gilets jaunes, échevelés, ma foi, fort prometteurs. Oui, ça existe, merde, on n'est pas des bêtes. Nous aurions voulu vous parler de la rébellion internationale d'octobre et du blocage du centre commercial Italie 2 à Paris, mais encore une fois, l'action de lutte a pris le pas sur l'écriture. Mais Extinction Rébellion et l'opposition violence-non-violence sont tout de même évoquées. Donc là, ça rappelle toutes les pages des articles. Retour sur la fascination des esprits en toute sérénité par les grands médias. Enfin, il y eut l'Assemblée des Assemblées 4 à Montpellier les 1, 2 et 3 novembre. Puis, ce fut l'anniversaire du 17 novembre. Relan d'activités militantes et d'affluence pour les Gilets jaunes à Brest. Mais dès le 17 novembre, il fallait préparer la grève générale et illimitée, commençant le 5 décembre. Rien que ça. Des pages 8 à 17, notre dossier sur cette grève, le bilan bien provisoire que l'on peut en faire, et les perspectives qu'elle ouvre. Nous reproduisons remis en page le bulletin d'information de grève sur la région brestoise, en ras de la grève. Découvrez également en cahier central notre rubrique de témoignages, le citron vengeur ou l'exaspération acidulée. Un peu de jus de crâne tout de même avec la critique du livre de Laurent Jean-Pierre In Giroum, que nous vous conseillons fortement. La réforme de l'assurance chômage qui fait et fera mal sera évoquée. Enfin, ce numéro laisse plus d'espace aux arts, à la bande dessinée. Monsieur Rond et Monsieur Triangle font la terrible expérience du chômage et de ses rouages administratifs. Ce numéro fait aussi plus de place à la photo et à la poésie. Un peu de beauté et un peu de joie dans ce monde de brut, il n'y a pas à chier, ça fait du bien. Bonne année 2020, à vous tout de même, malgré l'effondrement imminent et le fait que l'on va peut-être tous crever. Et encore une fois, convergence. Tout notre soutien au secteur en lutte. Continuons de nous battre, sans corporatisme, et ça vaut pour les gilets jaunes, avec ou sans gilet. Ouf, pardon, Aou et Miaou aussi, voilà qui est dit.
Bien.
Voilà, donc vous pouvez le retrouver, ce que je disais, à la, chez le bouquiniste de la Place Guérin et à la petite librairie, c'est à prix libre. Il y a plein de dessins, il y a plein de choses dedans. Il y a aussi de la publication en couleur. Enfin, on nous a dit qu'ils en avaient bien chié pour le mettre en page aussi. Enfin voilà, c'est allez le voir, allez le chercher. À signaler que aussi
jolie mise en page.
Ouais.
Je sais pas qui fait ça, mais
ouais, on dénoncera pas. que aussi en lien avec le AO, il y a une expo au Café de la Plage tout le mois de janvier. Donc au Café de la Plage, Place Guérin. Avec une caisse à prix libre en soutien, enfin caisse de grève quoi. Voilà. Ah oui,
parfait.
Pardon, c'est moi qui dois enchaîner. C'est compliqué.
Je suis en train d'essayer de préparer un truc à l'arrache. Voilà.
Le Waouh, de toute façon, il va aussi en soutien aux gilets jaunes, aux grévistes, quand on l'achète quoi.
Ouais. Alors, t'es prêt ou t'es à l'arrache?
De toute façon,
il sera jamais. Ouais. Il est prêt, il est à l'arrache. Parce que sur mon petit papier, sur ma conduite, n'est-ce pas? Coucou, Fanche. J'avais tout bien écrit, tout ça, c'était minuté. Donc là, normalement, c'était à toi.
Ouais, ok.
Pour quelque chose qui s'appelle une chronique de la bourgeoisie barbarisée.
Ouais, alors. Voilà, la bourgeoisie barbarisée, moi, c'est un truc. Que j'ai découvert via le compte Twitter du groupe Jean-Pierre Vernon, qu'on parle assez souvent. Je suis retombé sur un tweet, une petite série de tweets qui en donnait une définition, donc c'est déjà pas mal. Alors, ils nous disent... donc c'est en réaction à un tweet qui parle des gilets jaunes et des réactions qu'ont les gens dessus. Ils expliquent la barbarisation du bourgeois, c'est la manière dont Asner rendait compte de la mobilisation défensive des classes dirigeantes sous le coup de la peur, acceptant des pratiques brutales, cruelles ou vexatoires. Je continue la définition qu'il donne. La peur, suite à des événements traumatiques ou rendus comme tels par la création médiatique d'un ennemi commode, vient rompre l'équilibre entre les pulsions agressives et le surmoi qui les réprime. C'est l'essence de toute dérive fascisante. Le néofascisme, c'est l'organisation concertée de toutes les petites peurs, disait Deleuze. La barbarisation du bourgeois est une réaction d'angoisse parfaitement connue et alimentée que l'on reconnaît dans les délires de répression et d'ordre des bleu-bruns. Voilà, donc le bourgeois barbarisé, c'est quelqu'un qui a peur, tellement peur en fait, qu'il est prêt à accepter, donc là on parle de pratiques brutales, cruelles ou vexatoires, contre des gens de manière générale, et donc souvent contre ce qu'il perçoit comme ses ennemis, les barbares. Donc... Bon, on voit un peu comment ça peut être opérant, quoi, dans tout ce qu'on a vu autour des gilets jaunes. Il y avait un autre tweet où ils en parlaient, c'est... Ils faisaient une réaction à un dessin de monsieur Xavier Gors. Je sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui dessine des pingouins, et qui a un peu un cerveau de pingouin, quoi. Mmh. C'est un gros bourrin, il dessine où ces trucs? Quelqu'un sait? Non?
Ça me dit quelque chose, mais je sais.
On va éviter la pub, hein, mais c'est bien dans le délire du bourgeois barbarisé, quoi. Et là, c'était un dessin, il y avait des pingouins d'un côté et des pingouins avec des gilets jaunes d'un autre côté, et ça disait, donc c'est les pingouins qui n'ont pas de gilets jaunes, un des pingouins qui n'a pas de gilets jaunes qui dit, c'est pratique cette autosignalisation des troupeaux d'abrutis. Voilà. Donc,
et ça vole toujours à ce niveau-là.
C'est des dessins, humoristiques. Hein. Je ne sais plus où c'est publié, mais là, c'est les gens qui lisent ça, ils comprennent tous la blague. Ça les fait marrer. Et il y a un sous-entendu, quoi, assez brutal, effectivement, déshumanisation d'une partie des gens. Enfin voilà.
Comment il s'appelle ? Le dessinateur ?
Le dessinateur, c'est Xavier Gorce. Alors sinon, dans le tweet du groupe Jean-Pierre Vernant, là, il rappelait d'où vient le concept. Donc c'est de Pierre Asner, qui a écrit beaucoup. Je suis un peu trop à l'arrache. Mais entre autres, autour de ce concept de barbarisation de la bourgeoisie ou du bourgeois. Donc à théoriser un peu ce mouvement de peur moi ça me parle beaucoup autour des gilets jaunes, mais on pourrait dire aussi autour des quartiers populaires depuis avant les gilets jaunes, où ce qu'on voit ce qu'on entendait avant ou ce qu'on pouvait lire avant dans les médias d'extrême droite, c'est-à-dire les quartiers populaires, les gens qui sont recouverts par ça, on va en parler comme d'animaux ou voire de vermine, machin, enfin voilà. Et les gilets jaunes, pareil, les opposants d'extrême gauche, pareil, enfin voilà.
Les femmes, pareil.
Ouais, les femmes couvrent trop leur gueule. Et j'ai complètement oublié le début de ma phrase, mais bon. Ça me parle pas mal, quoi. Alors voilà, je voulais illustrer ça. Je reviendrai peut-être pour d'autres chroniques de la bourgeoisie barbarisée. J'essaierai d'aller lire un peu Pierre Asner avant, ça pourrait être utile. Mais j'avais un petit bout de son qui est disponible sur la page de Cerveau non disponible, et qui se passe, je sais pas si t'as retrouvé la date, la snob,
le 19 décembre.
L'opéra de Lyon entre dans le mouvement de grève, ou est déjà rentré hein, dans le mouvement de grève contre la contre-réforme des retraites là. Et donc va faire la grève de l'opéra, quoi. Les gens qui sont censés faire la représentation vont faire grève. Donc là, ce qui a dû se passer, c'est voilà, dans le cadre du mouvement de grève, la direction de l'opéra doit pas trop savoir est-ce qu'ils font grève, pas grève, machin. Bon, là ils ont quand même maintenu la séance. Et les gens qui font la représentation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sur scène au tout début de la séance, et quand le rideau s'ouvre, ils ont lu un texte disant qu'ils étaient en grève et qu'il n'y aurait pas de représentation. On va l'entendre, le texte, à peu près, hein, donc je vous laisse l'écouter, je ne vais pas vous le refaire. Et donc là, on a d'un côté les gens qui font la représentation, donc ceux qui, enfin, genre, qui ont dédié leur vie à ça, quoi, hein, quand même. C'est l'Opéra de Lyon, voilà. D'un côté, et de l'autre côté, les gens qui remplissent un opéra de manière traditionnelle, donc des bons gros bourgeois, hein, pour résumer la situation sociale. Surtout à l'Opéra de Lyon, enfin voilà. Et je vous laisse écouter le texte et puis la réaction après de la salle. Si ça fonctionne, quoi. Parce que ça n'a pas trop l'air de faire, mais petit bug technique. Ça sera supprimé au montage. Bluff.
T'es en train d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne ?
Ouais, je crois.
Juste, je voulais préciser que... Ah. Après.
Vas-y, précise, si tu veux.
Ouais, alors c'est la représentation en question, c'est un spectacle qui s'appelle Le Roi Carotte, et c'est une création de l'Opéra de Lyon, parce que dans les réactions après, c'est il y a des gens qui vont dire que c'est scandaleux et que c'est un irrespect total pour les œuvres et pour les créateurs des œuvres. Alors là, c'est une connerie sans nom. Enfin, c'est un argument complètement con, puisque les gens qui sont sur scène font partie de la création. Et enfin, je pense que c'est un choix, un vrai choix de justement ne pas représenter leur propre création.
Il trouve cette semaine un nouveau souffle. Partout, ces derniers jours, tous les secteurs d'activité, médical, culturel, enseignant, transport, se sont massivement mobilisés. Parce que la culture est aussi attaquée par la politique d'austérité du gouvernement et parce que les travailleurs et travailleuses de la culture sont aussi concernés par la réforme des retraites, de nombreux théâtres et opéras de France ont annulé leurs représentations ces derniers jours. Notre direction, en décalant la représentation qui devait avoir lieu hier, nous empêche de contribuer de manière visible à cette mobilisation. C'est pourquoi, à contre-cœur, les salariés ont décidé de ne pas assurer la représentation de ce soir en soutien.
Donc, on peut apprécier la solidarité de ces personnes dans les spectateurs, les spectatrices de l'opéra qui n'ont pas l'air d'avoir trop peur pour leur retraite. Hein, je sais pas. Mais je trouve qu'on comprend déjà le niveau de violence aussi qu'ils sont prêts à mettre, quoi, parce que c'est... Normalement, comment se passe une séance d'opéra classique, on va, on pose son cul, on regarde des gens donc on dédie leur vie, leur art, et on paye cher à l'entrée, et puis voilà, et à la fin, on applaudit, on s'approprie en quelque sorte une partie du talent de ces gens-là, en ayant beaucoup de compassion pour eux, voilà, bravo, quel talent. Et on voit que dès qu'ils essayent d'exprimer quelque chose de politique, donc on les laisse pas finir, hein, on les laisse pas finir ce qu'ils veulent dire. Ils ont, au bout d'un moment, bah, ils sont partis, quoi, de la scène, hein, vers la fin, là, ils sortent de la scène parce qu'ils peuvent même pas s'exprimer. Voilà ce qu'ils sont prêts à faire à ces gens-là que normalement ils étaient venus applaudir, quoi, si ils ont le malheur de ruer un peu dans les brancards et de pas faire leur vie en silence,
de pas se donner en spectacle pour ces gens qui ont payé pour, quoi. C'est on vient voir un spectacle, on vient pas voir des êtres humains, en fait, on vient pas voir des individus, on vient voir
en fait,
ce pourquoi on a payé.
Ouais, tu te mets à la place d'un spectateur, tu t'es mis dans l'idée de venir voir telle chose, et en fait, le fait de dénoncer après, au niveau quelque, enfin, de dénoncer des choses politiques, ben, en tant que prestateur, ça casse la magie, quoi. T'es là, mais de quoi ils nous parlent, nous, on... Non, non, on est venu se détendre, on est venu tout oublier, on veut pas savoir tes petits soucis ou ce que tu en penses. Nous, on a payé pour avoir un moment de magie et de détente, et puis voilà, basta. Et puis le reste, on s'en fout, quoi.
C'est l'opéra, hein, donc pour après, il y a des tarifs sociaux dans les opéras, mais il y en a pas beaucoup. Et puis quand bien même tu peux aller à l'opéra parce que t'as un tarif social, est-ce que tu te sens autorisé à y aller? Il y a très peu de prolos qui vont
voilà,
à l'opéra.
On fait pas de la sociologie de la salle au bonhomme près. Hein. Grosso modo, c'est vraiment des bourgeois qui vont à l'opéra.
C'est ça.
Plusieurs fois par an, en fait, la salle est remplie de bourgeois. Quoi.
Et ils se sentent pas concernés par ce qui est en train de se passer sur scène, et surtout, on les a privés de leur spectacle. Quoi. Ce pourquoi ils ont payé, bon sang.
Ouais. Donc vous imaginez bien, si en plus vous les empêchez d'aller à la boulangerie parce que vous faites une manif, ou si vous les empêchez de se déplacer comme ils l'entendent
parce que vous bloquez
un train ou parce que vous faites une manif, jusqu'où ils sont prêts à aller en niveau de violence, surtout quand c'est pas à eux de le faire et qu'il y a la police pour le faire à leur place. Quoi. Donc voilà, bon, c'était un peu à l'arrache là pour une première, mais j'essaierai de... revenir vous parler des bourgeois barbarisés et du concept symétrique de du barbare embourgeoisé, quoi. Je sais plus dans quel ordre il faut le dire, qui est intéressant aussi.
Ah, si tu veux, là, j'ai un complément de Xavier Gorce, le dessinateur. Tu cherchais le...
Ouais, bof, quoi, mais...
Non, je m'en fiche. C'est vraiment que t'es autre chose. Non, tu cherchais, bah, effectivement, il a édité dans Okapi, Phosphore et évidemment le monde.fr.
Ouais, c'est sur
le monde.
Qui diffuse son site, son blog, en fait. Ouais.
Okapi et Phosphore, c'est, entre nous, hein, c'est quand même des revues pour les enfants. Au secours, quoi.
Ouais. Bah après, il a peut-être changé de... Enfin, il a évolué peut-être après, très très politique.
Mal évolué.
Là, par contre, parce que ce que je trouve, c'est assez marrant ou pas, parce qu'en fait, je vois qu'il est dit dans c'est Wikipédia, hein, donc je sais pas si c'est fiable, effectivement. Mais apparemment, il se montre particulièrement virulent à l'égard des Gilets jaunes, que certains de ses dessins décrivent comme étant des abrutis et même implicitement des nazis. Donc, bon, après, il a dénoncé Greenpeace sur la façon de. Il a arrêté de. Il a dit à Greenpeace, arrêtez d'utiliser mes dessins pour défendre l'écologie, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec votre façon sur la question du nucléaire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous.
Les gens dessinent aussi sur commande, hein, quand c'est ton boulot. Et lui, donc, il dessine pour une partie des lecteurs du Monde qui sont les bourgeois barbarisés aussi. Et ça les fait marrer. Aussi, ils trouvent que les Gilets jaunes, c'est des abrutis. Qu'il y a quelqu'un qui fasse des dessins un peu marrants là-dessus, en plus, ça les ravit. Et... Enfin, il y avait eu un autre truc sur un article du Monde qui racontait, tu sais, le quotidien d'une famille, je crois, ou je sais plus de qui, mais de gens qui étaient des gilets jaunes typiques, disons. Et en dessous, c'était un déchaînement de commentaires dégueulasses. Voilà. Ouais. Le gars, il dessine et il est publié là parce qu'il y a des gens pour le regarder ses dessins. Hein,
Là, effectivement, ces pingouins s'appellent les indégivrables. Ouais. Voilà. Mais bon. On passe.
On passe avec... Tu voulais nous parler d'un livre qui s'appelle La non-violence, une résistance molle, c'est ça?
Ouais, La non-violence, une résistance molle, qui ne provoque pas de changement profond, en fait. Alors, en fait, c'est dans Comment la non-violence protège l'État, de Peter Gelderloos. Alors, il tacle la non-violence, qui mettrait en fait en danger les militants les plus offensifs, en les faisant passer et leur choix pour la répression. Il plaide pour une diversité des tactiques dans les luttes. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que dit l'article. Alors, peut-on résister à un système aussi violent que le capitalisme par la non-violence? Et donc, non, répond l'activiste libertaire Peter Gelderloos. Alors, dans son livre « Comment la non-violence protège l'État », il explique pourquoi la non-violence seule ne permet pas et n'a jamais permis de provoquer des changements profonds dans la société et ne fait qu'asseoir les privilèges de celles et ceux qui participent à ces mouvements. Alors que l'État réprime avec une violence grandissante les personnes qui le contestent, les mouvements non-violents se multiplient. Cela n'étonne pas l'activiste et auteur libertaire, qui déplore que la plupart des gens qui en viennent à s'impliquer dans des mouvements radicaux n'ont jamais entendu parler de bons arguments, ni même de mauvais, contre les non-violents. Il avance au contraire que la non-violence sert immanquablement les intérêts de l'État. Alors, en se déclarant non-violent, ces mouvements s'arrogent le droit de décider ce qui est non-violent, enfin ce qui est violent ou non, pardon. Alors déjà, ils s'étonnent que des mouvements préfèrent se définir en premier lieu comme non-violents plutôt qu'antisexistes, antiracistes, anticapitalistes et autres. Surtout que la non-violence pose de sérieux problèmes de définition tant cette notion est subjective. Les actions des pacifistes, par exemple bloquer le siège d'une multinationale, peuvent être considérées comme violentes par ceux et celles qui les subissent. Et notre cher couillon de Macron, par exemple, pourrait très bien considérer que les décrochages de ses portraits sont une violence contre lui. En se déclarant non-violent, ces mouvements s'arrogent le droit de décider donc ce qui est violent ou non. Gelderloos s'indigne aussi d'ailleurs du fait que les non-violents mettent sur le même plan la violence opprimée et celle des oppresseurs. Pourtant la première n'est qu'une réponse aux violences quotidiennes que le système produit et l'arsenal répressif qu'il met en place pour les maintenir. Donc en se limitant au pacifisme, les non-violents réduisent l'éventail des tactiques utilisables selon l'auteur. Ensuite, en se présentant comme non-violent, voire en dénonçant les violences des révoltes, comme c'est souvent le cas, les pacifistes et les pacifliques, comme ils les appellent, non, les pacifliques, j'avais même mal lu, les pacifliques, comme ils les appellent, reprennent le vocabulaire de l'État, en définissant ce qui est acceptable ou non en manifestation, en les désolidarisant de leurs alliés plus offensifs, les pacifistes les mettent en danger en faisant des cibles de choix pour la répression. Et donc pour cet acte civique, imposer un code de bonne conduite en manifestation est autoritaire, car cela revient à interdire à d'autres le droit, l'autodétermination dans leur lutte. A l'inverse, ils ne verraient pas l'idée qu'aucun activiste révolutionnaire d'imposer en fait que chaque participant à un événement frappe un flic ou lance une brique à travers une vitre. Alors, si on inverse le problème. Après, quand les pacifistes défendent la non-violence, c'est toujours dans l'article, hein, quand les pacifistes défendent, c'est ce qu'il lui met en fait, il met en avant dans son livre. Donc quand les pacifistes défendent la non-violence d'un point de vue stratégique, Gelderloos les attend au tournant. En se limitant au pacifisme, il et elle réduisent l'éventail des tactiques utilisables, donc leur possibilité de réussite. Pour lui, la non-violence ne peut conduire qu'à une réforme, au mieux un changement de gouvernement, mais certainement pas à une révolution. La non-violence assure le monopole de la violence à l'État. Ce qui pose problème, car toute lutte contre l'oppression passe par un conflit avec l'État. Et celui-ci ne se laissera pas faire, s'il n'est pas contraint, notamment par la violence révolutionnaire. En se refusant le droit à l'autodéfense, en fait, et à la révolte sur toutes ses formes, les pacifistes se mettent à la merci d'un État qui est par nature oppressif et qui ne s'évaporera pas sur demande ou parce que la légendaire masse critique attendue par les non-violents aura été atteinte. Après, il parle de les mobilisations non-violentes n'ont que peu de résultats. Alors, il rappelle par exemple que la mobilisation pourtant conséquente contre l'invasion de l'Irak en 2003, en fait, n'avait pas suffi à l'empêcher. Il tourne en ridicule l'histoire que les pacifistes se racontent sur leur radicalité. S'asseoir et s'entrecroiser les bras n'est pas se battre. C'est une capitalisation récalcitrante, lance-t-il. En revanche, riposter physiquement décourage de futures attaques parce que cela fait augmenter les coûts que l'oppresseur doit dépenser pour maintenir l'oppression. Alors même s'il dénonce cette forme de résistance molle, Jalderlouz n'est pas un fanatique de la violence. C'est tendancieux. Il prône une diversité des tactiques. Il insiste sur le fait qu'au sein même d'un mouvement ou d'une même manifestation, différentes tactiques, comme ça il l'a dit, peuvent cohabiter, laissant ainsi à chaque personne la possibilité de choisir. Alors, j'essaye de voir si... Parce que là, ça se répète un peu hein, dans l'article, je trouve.
Ça t'arrive souvent, hein, non?
Non, mais ça se répète, c'est l'article qui est comme ça.
C'est pas toi qui...
Non, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. C'est un article, un gars qui parle de...
C'est un livre qu'on a à la bibliothèque, à la bibliothèque Piquet, comment la non-violence protège l'État.
Oui, c'est ça. Qui fait, ouais,
et bon. C'est... Enfin, moi, je suis assez d'accord avec les théories de l'auteur.
Ouais, après, bon, il parle... Enfin, tu vois, il y a quand même... alors, il y a des trucs... Il rappelle que dans ces mouvements, par exemple, donc en non-violent, même si l'histoire des pacifistes retiennent Gandhi et Martin Luther King... De nombreux leaders et mouvements populaires, donc, qui pratiquent et prônent la résistance armée, ont largement pesé dans la balance contre Malcolm X ou le Black Panther parti aux USA. Donc, il revient aussi sur les émeutes de Birmingham en 1963. C'est assez loin, mais bon, ça a existé. au cours duquel 3000 Noirs, commencèrent à contre-attaquer, criblant la police de pierres et de bouteilles. À peine deux jours plus tard, la ville de Birmingham, qui avait jusque-là été un inflexible bastion de ségrégation, donc malgré les campagnes non violentes, accepta de mettre fin à la ségrégation. Et qui a déjà entendu parler de. Ah oui, et qui a déjà entendu parler de. Alors, Bhagat Singh, ce révolutionnaire indien. Qui s'attira un soutien massif en commettant des attentats à la bombe et des assassinats au profit des luttes visant le renversement du capitalisme, tant indien que britannique. Ouais, enfin, après les attentats, moi je suis pas très chou quand même. Mais bon, ça je sais pas, faut bien viser quoi. faut bien viser. Là.
Mais après, c'est dans ce qu'il dit aussi. Dans ce livre-là, comment la non-violence protège l'État, c'est aussi que cette histoire de non-violence, c'est aussi l'apanage des gens qui souffrent pas tant que ça, quoi. Et que ceux qui sont vraiment opprimés, vraiment opprimés, ça veut dire mutilés, assassinés, violés, il y a un moment, si, en effet, si tu fais des sittings, ça va pas suffire, quoi. Et du coup, c'est ce livre-là, on l'a à la bibliothèque, enfin dans la bibliothèque Piquet, donc il est empruntable. Et ça me fait penser à un livre qu'on va lire en commun, dont on va faire un arpentage à partir du mois de février, qui est un livre de Elsa Dorlin, donc publié chez Zone, et qui s'appelle Se défendre, une philosophie de la violence, où justement elle explique comment les gens complètement désarmés, complètement opprimés, colonisés, esclavagisés, n'ont pas eu d'autre choix à un moment que d'en venir à l'autodéfense. Et que l'autodéfense, c'était par leur corps. Et qu'ils ont mis en jeu leur corps au risque de la mort pour se libérer, quoi. Et que là, il est même plus question de non-violence, parce que de toute façon, c'est pas possible. Parce que la violence, elle était... Ils la subissaient tous les jours dans leur corps, quoi. Et à un moment, tu peux pas... Enfin, ce truc de non-violence, c'est vraiment un truc de bourgeois, quoi.
Oui, oui, manifestation pépère, quoi. Je sais pas. C'est assez...
Ouais, bon, on va peut-être faire une petite pause musicale avant de lancer un débat, mais bon, je sais pas.
Ouais. Après, toi, il y a marqué, tiens, et c'est même.
Tu peux rappeler le titre
Ça se répète. Ouais, mais attends, tu me disais que je me répétais tout à l'heure, mais il est marqué en critique un petit peu. L'ouvrage se lit facilement, mais certaines répétitions alourdissent la lecture des derniers chapitres. Tu vois, donc même dans l'article, ça se répète, voilà.
Ça s'appelle « Comment la non-violence protège l'État ».
Ouais.
Et c'est Peter van der Loos.
Mais, mais c'est intéressant. Gerd Herloos, pardon. C'est intéressant, les débats.
Ouais, je pense qu'on verra en arpentant Elsa Dorlin, si c'est plus... Enfin, bon, voilà, quand c'est vraiment le corps qui est confronté à la violence, il y a une sorte de dernier refuge, quoi, de pas d'autre solution. Mais après, le débat théorique qui a l'air d'être fait là dans le livre que tu présentais, Erwan, je le résous pas aussi simplement que ça.
Quoi. Non, bon, pas aussi simplement.
Ce qui est intéressant, c'est dans les dynamiques là, des luttes, il y a ce débat là, donc c'est bien d'en discuter, quoi.
Moi, j'aime bien, c'est ce qu'il cible, si tu veux. Il dit que les non-violents, en fait, vont stigmatiser ceux qui sont un petit peu violents. Et ça sert bien l'État, quoi, en fait. Ouais, tu vois, et ça, je trouve ça intéressant.
Justement, il faudrait, il faudrait en débattre plus longuement. Ouais. C'est des raccourcis. La non-violence, il n'y a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis ou en Inde. Ça vient d'ici. Ça a été théorisé par Thoreau au début du XXe siècle. Et Gandhi et Luther King, inspiré par Gandhi, développent spécifiquement des techniques dites de résistance passive, enfin voilà, qui sont souvent classées en dessous ce vocable de non-violence, mais qui sont spécifiquement autre chose que la pensée classique de la non-violence. Donc bon, c'est un peu facile de
prendre
ça comme exemple.
Mais c'est
Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je ne fais que parler du livre et bon, je trouvais intéressant de parler quand même de la répression quand même qu'on subit pas mal, quoi, et qui monte, en fait, qui monte malgré que il y a des gens qui sont en manif, ils sont tranquilles et ils se prennent des mal de LGBT, enfin tu vois, des coups de taf, machin, voilà.
Petite pause musicale.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute Bob Marley, il paraît la snob. Il paraît, enfin, on m'a dit que c'était toi, hein, qui voulais écouter ça.
Ah, c'est non violent, ça.
Ouais.
Normalement. Et mais ça dénonce.
On a mis lesquels?
On a mis War et Rat Race. On écoute ça tout de suite, on revient pour la deuxième partie de la midinale.
Yeah. Political Roger.